Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. C'est une émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Lucandiwa. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux personnes pour nous parler d'une exposition conférence balade. Et pour cela, nous avons au studio Bernard Faure. Monsieur Bernard Faure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes musicien, compositeur et pour cet événement, photographe. Et aussi Monsieur Bruno Robin, donc membre de...
Je suis bénévole au monastère de Sainte-Croix, voilà, et de la commission culture en particulier, voilà.
Et vous êtes là pour nous parler donc de cette balade, conférence, photo et son d'ailleurs, est intitulée « Ce que les cabanons nous racontent de la vallée de Quin ». Ça sera du 25 octobre au 5 novembre. Cette exposition donc est dédiée à ces multitudes de cabanons que l'on peut voir aussi dans la vallée de la Drôme, hein, du Diwa. Et pour vous, ça vous laisse quelle empreinte, ces cabanons? Qu'est-ce que vous y ressentez à leur vision?
On y ressent, je pense, chacun des choses très différentes. Pour moi, c'est surtout des objets de rêve, en fait. C'est-à-dire, je me souviens quand j'étais gamin déjà que j'allais les visiter en cachette, parce qu'on ne sait jamais chez qui on est. Et puis je rêvais de mener une petite vie de Robinson dans ce type de cabanon. Et en fait, bon, maintenant évidemment, à l'âge plus qu'adulte, c'est plus exactement cette chose-là, mais ça continue à faire partie d'une forme de rêverie, de manière de voir la vallée. Et les avoir photographiés, pas tous, mais quand même, à mon avis, une très très grosse majorité, d'en avoir vu disparaître, d'en avoir vu au contraire travailler encore et étant utilisé, j'ai le sentiment qu'ils font encore bien partie de la vallée de Quin.
Bruno Robin, pareil, votre sentiment à leur vision?
J'aime bien cette histoire de rêve. J'aime beaucoup ces petits bâtiments qui ponctuent comme une trame, ils constituent une trame tout au long de la vallée. Par rapport aux villages qui sont à chaque fois alignés ou un petit peu en hauteur. Et eux, ils sont, c'est comme s'ils constituaient un petit peu le paysage. Et j'adore ça, c'est cette trame qu'on voit. Et qui sont très soignés. C'est des petits bâtiments qui sont presque plus soignés que les maisons de bourg qui s'agrandissent les unes au fur et à mesure. Ouais.
Comment les voir en disposition dans la vallée du Diwa, il y a une sorte de régularité hein, de ces petits bâtiments. C'est similaire aussi dans la vallée de Quin?
Alors oui et non. Justement, et c'est aussi ça qui nous a beaucoup excités dans cette histoire. Dans l'ensemble du Diwa, et on peut parler de ceux qui entourent simplement la ville de Di, ou Châtillon en Diwa par exemple, on les trouve très régulièrement et très nombreux au milieu des vignes. Et ils datent à peu près tous de l'époque du phylloxéra et des équipements qu'il a fallu mettre en place pour traiter la vigne d'une certaine manière.
On peut rappeler cette épidémie aux alentours de la Première Guerre mondiale où toutes les vignes de France avaient dû être arrachées et que ce sont des Américains qui nous ont amené leurs vignes pour reconstituer le vignoble en France, c'est ça ?
Oui, c'était une forme d'épidémie, effectivement. Et il avait fallu trouver un moyen de traiter la vigne. Et pour faire ce traitement-là et le faire directement au milieu des pieds de vigne, il fallait avoir des réserves d'eau. Et donc, les cabanons avaient des toits qui donnaient sur une forme de récupération, un bassin qui permettait de préparer ces produits. Et puis, en même temps, ces cabanons, qui sont généralement très petits, servaient aussi à abriter l'outillage des gens qui travaillaient la vigne. Mais en revanche, s'il en existe quelques-uns comme ça dans la vallée de Quin, comme la vallée de Quin n'est pas une vallée de vignobles, même s'il y avait autrefois plus de vignes qu'il y en a maintenant, les cabanons qu'on trouve ne sont pas forcément de la même époque et ont des destinations qui sont souvent très différentes. Et ce qui nous a beaucoup intéressés avec Bruno et avec Caroline, c'est justement de réfléchir à, d'une part, à quelle époque ils ont été faits, et d'autre part, à quoi servaient-ils et servent-ils encore ? Et il y en a beaucoup qui servent, qui ont été des bergeries, qui pourraient l'être encore. Il y en a qui sont effectivement des endroits où on pouvait ranger les outils, où on pouvait mettre le cheval à l'abri, ou etc. etc. Et quand on a, à partir de là, posé la question à des propriétaires de ces cabanons, ils ont pu nous raconter un certain nombre d'histoires, d'anecdotes qui sont intéressantes et qui nous parlent de la vallée.
Donc pour revenir sur le terme cabanon, on l'a employé, c'est un peu un terme générique, donc on a dit voilà les cabanons de la vallée de Quin. Mais effectivement, les cabanons, ce qu'on appelle cabanons, c'est vraiment à Sainte-Croix dans la vallée de la Drôme. Et après, au fur et à mesure qu'on remonte, les habitants l'appellent ça plutôt les granges, les petites granges ou les cabanes, mais plus le terme cabanon. Mais voilà, ça évoque tellement ces petits bâtiments agricoles isolés au milieu des champs, ça évoque tellement les cabanons qu'on a gardé un peu ce terme. Voilà.
Alors, ces bâtiments dans la vallée de Quin diffèrent de ceux du Digois dans l'architecture ou dans la composition des matériaux. Est-ce que c'était marqué par une période plus précise aussi au niveau de leur construction ?
Alors en fait, je dirais oui. Par exemple, je comparais les cabanons qu'on peut trouver dans la vallée de Quin à ceux qu'on peut trouver autour de Die, et c'est-à-dire des cabanons à Clairette d'une certaine manière, et à Châtillon, qui sont des cabanons de vignes, etc. Mais en revanche, le modèle, j'allais dire, s'il y a un modèle type de cabanon dans la vallée de Quin, c'est un modèle qu'on retrouve à d'autres endroits. Mais d'autres endroits où il y a d'autres traditions agricoles et d'élevage. Et notamment les granges bergeries qui ont deux étages, qui reçoivent les moutons, etc., etc. On en trouve une très jolie collection aussi à Lèche en Diois.
Voilà, parce que dans ma naïveté, pour moi les cabanons, ce sont ceux qu'on peut percevoir du bord de la route, dans la vallée du Diois. Mais il y a diverses tailles de bâtiments de cette époque, ou ce n'est que celui-ci, ce type-là.
C'est vraiment, on peut dire un type en termes de taille, effectivement. C'est à peu près 4 mètres par 4 mètres, c'est pas très grand. La plupart des cabanons qu'on voit dans la vallée de la Drôme, c'est des bâtiments à deux pentes. C'est un peu plus varié dans la vallée de Quin. Souvent, ils sont quand même à flanc de coteau. Souvent à deux niveaux, c'est-à-dire que par le bas, on accède à la pièce où étaient les animaux, et puis par le haut, on pouvait ranger des outils où le berger pouvait même être abrité là-haut. Donc on y accédait de plein pied. Des fois, il y a même un niveau de plus, avec éventuellement un petit escalier, ou simplement pour servir de pigeonnier. Voilà, et c'est des bâtiments qui sont soit à une pente, et du coup la pente qui suit comme la pente du terrain, en fait, et on imagine assez bien, hein, du coup on se sert de la partie sous le toit à l'arrière pour pouvoir rentrer, ou à deux pentes, comme les cabanons habituels. Voilà, donc il y a plusieurs types.
Leurs constructions sont parties sur des bases architecturales plutôt communes, ou alors il y a eu plusieurs architectes. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs des architectes qui ont œuvré là-dessus, ou c'était une entreprise ou des entreprises qui se sont mises à construire donc.
Non, je crois vraiment, et peut-être plus encore dans la vallée de Quin qu'ailleurs, la vallée de Quin qui était assez enclavée en réalité, puisque c'était très difficile d'y rentrer, hein, le pont de Tourette date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'était les agriculteurs en réalité qui construisaient tout ça. Hein. Bon, leurs maisons bien sûr, mais aussi et surtout ces petits cabanons, ces petites cabanes. Donc c'est les pierres des champs, c'est la charpente, c'est tiré évidemment de la forêt autour. Voilà, donc il y avait très peu d'artisans, évidemment pas d'architectes, mais un soin réel apporté à ces petits bâtiments. Par exemple, il y a des enduits, il y a plusieurs petites cabanes où on voit des enduits tout autour, alors que même dans les villages, c'est souvent la, la partie nord qui est plutôt protégée par un enduit, et la partie sud, bah, ma foi, on n'a plus assez d'argent et on le laisse comme ça. Donc là, c'est, tout, tout est bien soigné, les linteaux, les encadrements de portes, il y a même des fois des cheminées à l'intérieur, donc on se dit que c'était pour y habiter, mais la cheminée n'a jamais servi. Donc on préparait ça très soigneusement, et j'aime l'idée en tout cas que les gens qui habitaient dans les villages où ça s'agrandissait comme ça pouvait, et là, prenaient leur temps pour faire leur truc à eux. Et alors, ça se sent dans l'implantation dans le paysage, etc. Voilà.
Oui, chacun avait un petit cabanon. Enfin, chacun. Ça dépend si les parcelles étaient un peu éloignées aussi. Alors, il y avait des fois un petit cabanon, là, mais sans plus. C'était des fois pour y mettre le cheval, le temps de manger ou n'importe. On laissait le cheval dans le cabanon. Faire du blé, maintenant, c'est rien. On sème, et pour moissonner, on moissonne à l'ombre d'un noyer, maintenant. La machine tourne, tandis qu'avant, on faisait, il fallait commencer à faire les chemins qu'on appelait, on faisait un passage pour passer avec la machine. Mais bon, c'était les chevaux ou les vaches qui traînaient les machines. Et puis la moissonneuse avec la faux pour faire les gerbes. Et puis ramasser les gerbes, faire les gerbiers. Oh là là! Bon, il y a eu les lieuses après, alors ça liait les gerbes déjà. Et puis la batteuse après. Oh là, c'était encore une semaine là que. Le premier tracteur qui est venu, c'était une coopérative qui faisait le battage et labour. Et c'était en 48 ou 49. C'était du matériel américain qui arrivait, c'était le plan Marshall. Longtemps, on avait de tout, tout en autoconsommation, quoi. Et puis après, les dernières années, on s'est un peu spécialisé, là, en 65, par là. Alors là, moi, je faisais du lait avec les vaches. Et puis, j'ai pu faire quelques plantes aromatiques un peu.
Il n'y avait plus beaucoup de monde à ce moment-là, ou il y avait encore beaucoup d'agriculteurs?
Sur toute la vallée de Caen, il y en avait au moins 50, si ce n'est pas plus. Et aujourd'hui, il en reste 5.
Alors, cette exposition qui commence le 25 octobre permettra de découvrir ces photographies que vous, Bernard Faure, avez pris de ces cabanons dans la vallée de Caen, accompagnées aussi de séquences sonores opérées par l'ethnologue Caroline Fontana, et donc qui parle de l'histoire agricole de la vallée et aussi de peut-être découvrir un peu plus ce patrimoine.
Oui, alors ça, c'est tout le travail de Caroline Fontana, donc, qui est partie à la recherche des propriétaires ou des anciens du village qui pouvaient nous raconter un petit peu à quoi ces cabanons avaient servi, qui étaient souvent dans une tradition familiale, etc., etc., qui nous ont certaines fois d'ailleurs signalé aussi qu'il y avait à tel ou tel endroit des cabanons qui ont disparu, mais qui du coup devaient donner une allure un petit peu différente au paysage. Et le travail de Caroline était donc de recueillir tous ces témoignages et puis de les organiser comme, elle appelle ça des capsules sonores, on peut appeler ça des vignettes sonores, ou etc. Ce sont des micro-émissions de radio qui peuvent durer 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes au maximum, qui racontent à la fois techniquement et historiquement, mais aussi d'une manière plaisante, avec des anecdotes, avec des... Voilà. Alors, ça donne de la vie, en fait, à cette exposition. C'est-à-dire que on aurait pu garder une exposition de photographies et puis visiter ça comme ça. Là, ce qui sera amusant et intéressant, c'est que si on y va avec son téléphone, on trouvera au pied de certaines des photos un flashcode. Et il suffira de le photographier pour que ça nous permettent d'entendre avec le téléphone, au casque ou audio, d'une manière classique, ces petits enregistrements. Et donc, c'est assez sympa de regarder le cabanon de M. Marc Bernard ou d'entendre sa mère en parler, alors qu'on regarde le paysage dans lequel ils vivent et puis des gens qui nous font cette description. Et donc, en fait... voir cette exposition des cabanons, c'est un peu se promener dans la vallée, mais c'est aussi se promener avec des personnes de la vallée de Quin qui racontent leur histoire.
Bruno Robin, vous-même, dans ce projet, étant architecte, vous avez amené aussi vos connaissances dans ce domaine de ces cabanons et peut-être teinté aussi d'histoire.
L'histoire... L'histoire, c'est assez curieux, l'architecture de la vallée de Quin. Il se trouve d'ailleurs que je ferai... Il y a des temps forts. Il y aura deux temps forts autour de cette exposition. Donc, il y aura... Je fais une toute petite discrétion, mais après, j'atterris sur votre question. Donc, il y aura le samedi 28 octobre, il y aura toute une journée donc autour de ces cabanons. Et c'est, on a appelé ça ce que les cabanons racontent de la vallée de Quin. Et donc, il y aura plusieurs conférences donc, sur l'architecture, sur l'occupation du territoire, sur plusieurs choses. Et je ferai quelque chose sur l'architecture. Et ce qui est intéressant dans la vallée de Quin, c'est que la plupart des bâtiments, c'est-à-dire des villages, mais aussi de ces petits cabanons, ont été construits en réalité à la fin du 18e et 19e siècle. Et à la fin du 19e, il n'y a quasiment plus de nouvelles constructions. Et avant, on en trouve... Vraiment très peu, vraiment. Sauf bien sûr le monastère de Sainte-Croix ou quelques bâtiments et vieux bâtiments à Saint-Julien, mais assez peu. Donc ça laisse entendre que les bâtiments étaient beaucoup plus fragiles et qu'ils ont été remplacés au fur et à mesure, quoi. Donc les cabanons qu'on trouve datent plutôt du 19e. Et on en voit un petit peu l'évolution avec des génoises qui sont un peu plus précises, des enduits qui sont plus lissés ou des choses comme ça, ou trois pentes au lieu de pentes de toiture. Donc ça qui nous emmène jusqu'au début du 20e. Mais voilà.
C'est parmi ces bâtiments de la vallée de Quin qui ont inspiré ce qu'on peut trouver dans la vallée du Diwa.
Alors, est-ce que dans quel sens ça marche ?
Est-ce qu'il y en a certains qui ont eu un modèle qui a plu ou qui a pu être justement appliqué aussi dans la vallée ? Ou alors chaque territoire avait sa notion d'architecture selon sa pratique de travail agricole également ?
Alors, évidemment, il y a la pratique qui influe sur la forme du bâtiment. Mais n'empêche qu'il y a des typologies, entre guillemets, c'est-à-dire des types d'architecture, de formes, qui, au-delà de l'usage... viennent un petit peu, on copie le voisin, quoi. Et c'est des histoires culturelles. Et dans la vallée de Quin, on sent bien ce qu'on peut trouver dans la Drôme, c'est-à-dire les différentes tendances qui peuvent venir soit des montagnes, c'est le Dauphiné, hein, avec des architectures de bâtiments avec des deux pentes de toit, et c'est le pignon qui est le plus important, ou des références de la Provence. Et on voit un petit peu ces deux types d'architecture dans la vallée de Quin, qui sont plutôt de référence d'architecture montagnarde du Dauphiné, ou plutôt d'architecture provençale. Et on peut retrouver d'ailleurs les deux types dans des hameaux. Mais c'est intéressant, c'est ce côté-là, ces deux types de références architecturales. Ouais.
Bernard, vous vouliez rajouter ?
Non, j'écoute ça. très attentivement.
Vous êtes musicien, compositeur, dans un domaine particulier, à ma connaissance, mm-hmm. celui de la musique acousmatique ou électroacoustique. Est-ce que la photographie est un domaine qui est inhérent aussi à la musique ? Et est-ce que l'un s'inspire de l'autre ?
Et j'aurais tendance à dire oui. Parce qu'en fait, que ce soit les musiques électroacoustiques ou que ce soit la photographie, ce sont des arts de support, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais quelque part et que j'enregistre un paysage, parce que je fais ça souvent, j'enregistre des paysages sonores avec les oiseaux qui les habitent et qui les manifestent, ainsi que des insectes, des batraciens, toutes sortes de choses. En fait, qu'est-ce que je fais ? Je prends des empreintes sonores de ce paysage et je mets ça... autrefois sur une bande magnétique, maintenant dans une disquette, etc. Et si je vais photographier ce paysage, c'est un petit peu la même chose. Mais cette fois-ci, je prends une empreinte de lumière. Et ça veut dire que je ne fabrique pas ces choses, en fait. Je suis plutôt un collecteur de tous ces éléments, de ces images ou de ces sons. Et je compose avec ça. Alors, ça m'est à la fois familier et évidemment, le son m'est beaucoup plus familier que celui de l'image. Je photographie depuis très longtemps, mais sans avoir jamais eu véritablement l'ambition de faire une exposition. Là, c'est la première, mais ça me passionne de faire ça.
Tout à l'heure, on parlait de ces constructions qui semblaient être inspirées en fonction de l'activité qui en découlait. Mais est-ce qu'il y avait peut-être aussi une part de poésie dans ces conceptions, dans ces architectures, et peut-être aussi une perception très différente en fonction des saisons ?
Alors, c'est presque deux choses différentes, les saisons. Oui. Mais bon, le côté poétique, oui, moi j'adore, et c'est ce que je recherche. Hein, c'est aussi bien dans l'implantation, c'est-à-dire comment on se situe par rapport à la rivière, à la forêt, à l'arbre qui est là. Et à chaque fois, il y a un soin tout à fait particulier qui est mis là-dessus, et j'adore. Et donc, en un sens, c'est l'usage qui fait qu'on se met là, et en un autre sens, c'est que comment on répond à ce qui se passe autour. Et ça, on peut dire peut-être que c'est de la poésie.
Et puis, c'est peut-être aussi la réflexion de la personne qui, de son époque, agriculteur, avait peut-être une autre perception de la nature qu'aujourd'hui.
Oui, ça c'est vrai. Et on est... Bien sûr, c'est tellement naturel. Alors, en plus, avec les matériaux, on tire les matériaux du champ d'à côté, ça fait la maison, on a l'impression qu'elle est sortie de terre directement. Bon. Dans la vallée de Quin, mais ailleurs aussi, il y a les façades. Il y avait des petits porches d'entrée qui, petit à petit, sont devenus des façades, etc. Et donc là, il y a d'un seul coup, la maison devient une sculpture. Ou les hameaux eux-mêmes deviennent des sculptures. Et là, c'est la poésie du village en entier. Et puis, à l'intérieur des hameaux, il y a des maisons ou des corps de ferme qui se referment sur eux-mêmes pour se protéger des intempéries. Donc, au nord, souvent, c'est fermé. Et puis, c'est ouvert au sud. Et à l'intérieur, il y a comme des patios. Et c'est assez extraordinaire. On pourra peut-être développer un tout petit peu les deux journées qui se feront autour de cette exposition.
Bien sûr. Eh bien, on voilà. Y va. Le moment est passé, hein, effectivement, parce qu'on peut parler longtemps encore.
On y va. Donc, deux journées donc, autour de cette exposition. Donc, le 28 octobre, donc, ça sera tout se passera au monastère de Sainte-Croix. Donc, dès le matin, à partir de 10h, il y aura donc un vernissage, visite commentée de l'exposition par Bernard et Caroline. À 11h, donc une conférence sur l'architecture, c'est moi qui fais ça, donc sur la vallée de Quin. Alors on parlera effectivement des influences du Dauphiné, etc. Voilà. Et de 11h, ça nous emmène au repas. Ça sera un repas partagé, donc chacun doit venir avec son petit pique-nique. Et puis on reprend à 14h, donc une conférence sur l'histoire des cimetières familiaux. Quelque chose qu'on connaît pas mal dans le coin, c'est les guerres de religion, c'est les protestants, et voilà. Et il se trouve que dans la vallée de Quin, il y a beaucoup, c'est un des endroits où les cimetières familiaux sont les plus denses, probablement parce que la vallée était tellement fermée qu'en fait les protestants s'y sentaient un peu plus protégés. Donc une conférence sur les cimetières par Pierre Martin et Jean-Claude Rouchousse. Et puis après, une table ronde sur les thèmes d'occupation du territoire dans le temps. Là, il y aura Jacques Planchon, le conservateur du musée, qui interviendra. Il y aura Laure Laluby, qui est une habitante du Diwa et qui est, elle, architecte du patrimoine. Il y aura Marie Marquet, qui est historienne, spécialiste des techniques textiles. Voilà, et qui parlera des quelques pistes autour de ce patrimoine disparu, parce que dans la vallée de Quin, il y avait beaucoup de textiles, hein, soit de la laine, soit du chanvre, etc. Voilà, donc ça c'est le 28 octobre à partir de 10h. Il y a une entrée payante de 5€ pour participer aux différents frais. Et puis donc, chacun doit venir avec son téléphone et si possible avec quand même c'est des écouteurs qu'on branche sur son téléphone pour éviter, si tout le monde branche son téléphone au même moment sans avoir les écouteurs, ça va faire un brouhaha épouvantable. Voilà, donc plutôt les écouteurs. Donc ça, c'était le 28 octobre. Et puis après, il y a le samedi 4 novembre et c'est que l'après-midi à partir de 14h au hameau de Saint-Étienne en Quin. C'est un très beau hameau. où il y a donc un petit peu en hauteur et donc un hameau un petit peu en longueur, mais pas que, avec de l'architecture, donc référence provençale, mais pas seulement. Il y a d'autres maisons isolées qui font penser au Dauphiné. Puis il y a plein de choses. Il y a des murets, il y a des fours à pain, en veux-tu, en voilà. Il y a des cimetières familiaux. Comme
des lavoirs.
Des lavoirs. Il y a un très beau lavoir avec plusieurs sources. Donc il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir. Et donc ce jour-là, il y aura à nouveau Jacques Planchon, donc le directeur du musée, mais qui connaît très bien l'occupation du territoire et qui peut nous réserver des surprises, entre autres avec les Romains qui habitaient dans le coin. Donc il y aura Laure Lalubie, l'architecte du patrimoine. Il y aura à nouveau Jean-Claude Rouchoux et Pierre Martin, parce que là, il y a des cimetières familiaux, il y en a plusieurs. Voilà, et puis donc moi aussi, donc je suis un habitant de la vallée. Donc ça, c'est le samedi 4 novembre à Saint-Étienne-en-Quin, voilà, sur la commune de Saint-Andéol, dans la vallée de Quin. Voilà.
Bernard Faure, comment s'est organisée cette présentation proposée donc, pendant ces 10 jours, ce travail donc, en conjugaison avec Caroline Fontana, Bruno aussi, et peut-être d'autres sur cette préparation?
C'est tout simple. En fait ces photos, je les ai commencées il y a bien une quinzaine d'années, où j'ai commencé à faire des photos. Puis j'en ai accumulé un assez grand nombre. Et d'ailleurs, en fait, elles n'étaient pas du tout prévues pour rentrer dans une exposition. Ce qui fait que c'est les dernières années, quand on a commencé à imaginer une exposition, je suis souvent retourné pour refotographier à nouveau et faire des documents qui présentent un plus grand intérêt que simplement la photo qu'on fait pour soi. Et puis, c'est en parlant avec Caroline qu'on a imaginé le fait de travailler autant le son que l'image sur cette question-là. Et tous les deux, on a mis en place un projet, voilà, de photographie et de recueil de témoignages, pour lequel, d'ailleurs, nous avons obtenu une aide financière de la part du département. Sur la question de la valorisation du patrimoine de la Drôme. Et à partir de là, il fallait trouver le lieu où on allait montrer ça, et c'était bien évidemment le monastère qui nous semblait tout désigné pour ça, et la complicité que nous avons avec Bruno depuis pas mal de temps quand même, sur ces questions d'architecture, et puis l'idée est venue d'étoffer ça avec ces journées d'études, etc., etc. C'est une boule de neige, en fait.
Ces cabanes, cabanons, granges, aujourd'hui, sont-ils toujours en activité ou alors est-ce qu'ils sont dans un sommeil?
Il y en a quelques-uns qui sont encore en activité.
Il y a certains bâtiments, peut-être, qui sont, semble-t-il, délaissés. Est-ce qu'il y a aussi une demande, une recherche de personnes qui aimeraient peut-être relancer une activité autour de ces, peut-être, de ces lieux?
Alors d'abord, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont en ruine, et qui sont en ruine très souvent au milieu d'un bosquet, d'une certaine manière, parce que au moment où le cabanon est abandonné, commencent à pousser des ronces, puis des petits arbres, et puis tout ça s'agrandit, et on ne voit plus le cabanon, et il existe encore. Et puis, en même temps, ben, il s'écroule petit à petit, parce qu'il est tombé en désuétude, parce que plus personne ne s'y intéresse. Donc il y en a un certain nombre qui sont encore debout, mais difficiles à trouver. Il y en a d'autres qui sont en train de s'écrouler. Il y en a qui sont en ruine. Et puis, il y en a dont on a la trace et la connaissance. Nous avons même des photos de cabanons qui ont été démolis volontairement. Parce qu'il fallait laisser la place aux tracteurs, parce qu'ils n'intéressaient plus personne, ils n'avaient plus aucune raison d'être. Donc, voilà.
Alors c'est sûr que cette reforestation et les forêts qui ont été replantées à la fin du 19e, bien sûr, ça a entouré, rogné des terrains agricoles qui étaient difficilement accessibles ou des choses comme ça, où les charbonniers allaient chercher du bois, etc., et donc construisaient leurs petites cabanes, et maintenant se trouvent en réalité enfouis dans la forêt. Oui. Ouais.
Et il y en a une assez grande quantité qui reste entretenue par les propriétaires, avec certaines fois une réfection de la toiture, des charpentes, etc., des huisseries, justement pour que les cabanons restent bien fermés. Donc il y a un entretien de ce type-là, et il y en a même un certain nombre qui sont devenus des petites résidences secondaires. Et d'ailleurs, l'exposition se termine sur un de ces cabanons qui est devenu une résidence secondaire.
Est-ce que cet aspect de l'agriculture est aussi fait partie du patrimoine? Est-ce qu'il y a une sauvegarde, un programme de sauvegarde autour de ces édifices?
Non, à ma connaissance, il n'existe aucun programme, mais c'est peut-être ça aussi qui nous a titillés.
En tout cas, c'est pas comme il y a plusieurs types de petites granges ou cabanons, hein, une pente, deux pentes, un niveau, deux niveaux, trois niveaux. C'est pas la même chose que les cabanons de vigne de Châtillon-Diois, où là, il y a un type qui est tellement fort qu'on a envie de les protéger. La question se pose moins dans la vallée de Quin, puisqu'il y a toute une diversité. C'est plutôt effectivement le plaisir du petit bâtiment agricole qu'on voit au fur et à mesure, quoi.
Est-ce que dans ces propositions, ça se déroulera donc à Sainte-Croix, place de l'église du Temple?
Oui.
Vous avez organisé aussi des visites de ces lieux pour ces propositions?
Lors du 4 novembre de la visite à Saint-Étienne, donc là, il y aura la visite de cabanon. On visitera le village, mais aussi parce que donc il y a pas mal de cimetières familiaux, mais il y a aussi pas mal de cabanons, 1, 2, 3, 4 cabanons qui sont juste en dessous du village de Saint-Étienne. Donc ça, on ira les voir, on se baladera autour. Voilà.
Il y a Coditaire qui participe aussi à cet événement. Qu'est-ce que Coditaire?
Alors, Coditaire, c'est une association qui est assez récente, mais enfin un peu plus d'un an, qui s'est créée dans la vallée de Quin et qui a pour objectif donc d'œuvrer pour la sauvegarde de la biodiversité. Et donc ils nous ont contactés quand ils ont été au courant de ce que le monastère préparait. Ils nous ont contactés au monastère pour se dire « est-ce peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble ?» Alors ils seront là le jour du 4 novembre, enfin, on a déjà eu plusieurs réunions préparatoires avec eux. Ils seront là le 4 novembre pour la visite de Saint-Étienne et pour, entre autres, très probablement, il y aura une spécialiste de lecture du paysage qui sera amenée par Coditaire. Et ça peut être très, très intéressant parce que les paysages agricoles, on prend une carte postale comme si c'était figé et en réalité, ça a énormément bougé. Toute la vallée a été reforestée. Enfin, il y a eu beaucoup de Il n'y avait plus de forêt. Il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans, il n'y avait plus de forêt. Donc... Et en même temps, il y avait beaucoup plus d'arbres dans la vallée qu'aujourd'hui, puisqu'il y a eu le remembrement qui est passé. Voilà. Donc il y a toute une lecture du paysage qui est très intéressante. Coditaire participera à ça. Et Coditaire est très intéressé par la réflexion sur l'usage de l'eau et la redécouverte des anciens réseaux, etc., qui existaient. Et donc, voilà, on parlera de ça. C'est un vrai sujet.
En perspective, autour de ces cabanons dans la vallée de Quin, donc, est-ce que vous envisagez peut-être des événements musicaux autour peut-être plus culturels aussi, des événements culturels autour de ces bâtiments pour les prochains temps?
On peut imaginer ça. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a pas une commission qui s'est réunie pour ça. Et puis, les cabanons sont petits. Ce sont des capacités d'accueil très petites.
Hein. Je ne parle pas d'y être à l'intérieur, mais d'être autour.
Ça pourrait être très poétique. C'est vrai. C'est une bonne idée. On va retenir ça. Merci. C'est vrai.
Pour tout savoir, il y a le site de l'ancien monastère de Sainte-Croix, site internet.
Bien sûr, bien sûr.
Et là, vous aurez toute la programmation, plus les explicatifs de ces deux journées. Donc, ce sont deux journées juste, le 28 octobre et le 4 novembre. Est-ce que par la suite, vous envisagez aussi de développer un peu, en fonction des saisons même, peut-être
pourquoi pas.
D'aborder ces lieux à diverses saisons.
Ouais, c'est En particulier, le travail de... Enfin, les photos, bien sûr, on pourrait les exposer dans ces cabanons. D'ailleurs, pourquoi pas faire un circuit de visite, de l'exposition au fur et à mesure des cabanons. Ça pourrait être vachement chouette, ça. Et le travail de Caroline Fontana aussi. On pourrait imaginer, effectivement, des soirées et entendre ça, et accompagné d'autres choses. Enfin, tout, c'est une très bonne idée, ce côté. C'est vrai que c'est poétique, ces petits bâtiments qui ponctuent comme ça. Et on voit le travail des gens qui habitaient là, et on a envie d'en faire partie. Ils nous invitent, oui.
Bernard Faure, la photographie, vous l'avez débutée en argentique ou vous êtes arrivé directement sur le numérique ?
Oui, j'ai commencé en argentique, mais il y a longtemps, quand j'étais gamin. Mais ça m'amène à une anecdote, c'est que fouillant dans des archives familiales récemment, j'ai remis la main sur une photo de cabanon que j'avais fait, j'avais 8 ou 9 ans. Mais c'était déjà des choses qui m'intéressaient. Et cette photo-là, on la mettra à l'entrée de l'expo.
Pour ces événements et d'autres à venir, est-ce que vous êtes aussi demandeur de soutien, d'aide peut-être pour ces événements ou aider?
Eh bien, c'est une bonne question, c'est une bonne idée. Parce qu'effectivement, donc comme c'est une exposition sonore, donc il y a du matériel, il faut qu'on écoute. Et donc, on disait que ça serait bien d'avoir ces écouteurs chacun. On l'a mis dans l'affiche, etc. Mais ce n'est pas évident que tout le monde ait ça. Et du coup, il y aura des permanences, a priori, tous les après-midi de l'exposition, il y aura des permanences. Mais il faut des permanents aussi pour les tenir, ces permanences. Et donc, on a besoin de bénévoles. On a lancé des framalates. Mais s'il y a des gens qui veulent bien nous accorder 2 heures ou plus, hein, l'expo, c'est de 14h à 17h chaque jour, du 25 octobre au 5 novembre. Donc là, effectivement, s'il y a des bénévoles qui sont d'accord pour tenir l'accueil, ça serait super. Voilà.
Pour se renseigner, il suffit d'aller sur le site ou alors peut-être un numéro à appeler en particulier pour ces demandes.
Ouais. Alors, pourquoi pas m'appeler moi ? Je peux laisser mon numéro de téléphone, c'est peut-être le plus simple. Donc, je suis Bruno Robin. Mon téléphone, 06 81 34 81 02. Voilà. Et du coup, c'est super. J'entendrai. Ouais. Merci.
Bruno Robin et Bernard Faure, je vous remercie en tout cas tous les deux d'être venus sur Air du Bois pour nous annoncer donc ces deux rendez-vous du 25 octobre au 5 novembre, avec particulièrement le samedi 28 octobre avec des journées fortes autour de l'exposition et le samedi 4 novembre avec en quelque sorte une immersion voilà. Sur ces lieux. Bernard Faure, vous avez également un site internet qui permet de découvrir votre travail.
Oui, il parle peu de photographie, si ce n'est qu'il est illustré par mes photos, qui s'appelle lagrivesolitaire.com.
Et il y a également la bande sonore, je pense que ça c'est le site...
C'est le site de Caroline Fontana, et là, allez-y, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à écouter et à découvrir.
Je mettrai les liens sur la page de l'émission, et je vous souhaite tous deux une bonne fin de journée.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir. The book.